Je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Toumba Kiamanga.
Bonsoir. Deux thèmes dans l'émission Dialogue entre Congolais de ce 20 mai 2009. L'ONG Human Rights Watch a suggéré au Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner vigoureusement les crimes de guerre commis par des soldats de l'armée congolaise dans la partie est du pays, ainsi que leur exclusion des postes de commandement de l'armée pour atteinte aux droits humains, déclaration adressée hier mardi à la mission du Conseil de sécurité de l'ONU qui était sur place en RDC. Quelle analyse faire de la demande de cette ONG internationale? C'est le premier sujet du débat. Et puis à Mbandaka, marche pacifique hier mardi de plusieurs centaines de militants du MLC réclamant l'implication du chef de l'État pour le retour aux affaires du gouverneur déchu José Makila. Pourquoi ces militants du MLC réclament-ils l'implication de Joseph Kabila dans ce dossier? Vous le saurez dans le deuxième thème de cette émission Dialogue entre Congolais. Nous avons invité pour vous dans ce débat Jacques Joly, juriste, sénateur MLC et vice-président de la Commission Défense, Sécurité et Surveillance des Frontières au Sénat. Jean Bouillou, il est juriste aussi, député national et au cadre du PPRD. Bonsoir maître Jean Bouillou.
Bonsoir.
Bonsoir Jacques Joly.
Bonsoir.
Et maître Richard Bondo, président de l'ONG de défense des droits de l'homme, dénommé Avocat sans frontières Congo. Bonsoir maître.
Bonsoir Jean-Claude.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
L'ONG Human Rights Watch a suggéré au Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner vigoureusement les crimes de guerre commis par des soldats de l'armée congolaise dans la partie est du pays, ainsi que leur exclusion des postes de commandement de l'armée pour atteinte aux droits humains. Pour cette ONG de défense des droits de l'homme, je cite, « Les civils sont pris au piège, pris pour cible par toutes les parties dans le conflit entre l'armée congolaise et les FDLR ». Elle a dit dans une déclaration adressée hier mardi à la mission du Conseil de sécurité de l'ONU qui était sur place en RDC, et pour mettre fin à l'impunité des auteurs de ces crimes, Human Rights Watch exhorte le Conseil de sécurité à conditionner le soutien de l'ONU aux opérations militaires congolaises par l'exclusion des auteurs connus d'atteinte aux droits humains des postes de commandement. Avant le débat, détail sur le plaidoyer de cette ONG avec notre consoeur Noëlla Mizitukabambi.
Dans cette déclaration, Human Rights Watch justifie son exhortation par l'effet que les exactions répandues et cruelles de l'armée congolaise contre ses propres concitoyens équivalent à des crimes de guerre, a indiqué Annick Van Hundenberg, chercheuse à Human Rights Watch. Pour elle donc, une opération militaire qui prend pour cible les personnes que le gouvernement prétend justement protéger ne peut que conduire au désastre. Pour étayer ces accusations, le texte de la déclaration est ponctué de plusieurs cas d'incendie des maisons, des crimes, des vols, des pillages, des viols de plus de 140 femmes, des filles et même d'enfants. Depuis janvier de l'année en cours, d'après les 24 villages de la province du Nord Kivu, dans les territoires de Lubero et de Walikale, sans oublier à Kihonga au Sud Kivu. Dans plusieurs témoignages recueillis par Human Rights Watch et repris dans cette déclaration, les victimes affirment avoir été violentées car accusées par ces soldats d'être de connivence avec les ennemis, entendez les FDLR. Du côté des FDLR non plus, les civils congolais n'ont pas été épargnés. Depuis le début des opérations militaires engagées contre elles, les milices des FDLR et du RUD ont commis des crimes de guerre lors d'attaques brutales menées en représailles dans le nord et le sud Kivu, attaquant et tuant délibérément au moins 200 civils, soutient l'ONG britannique. Pour Human Rights Watch, les soldats du maintien de la paix de l'ONU ne peuvent pas appuyer des opérations militaires au cours desquelles des crimes de guerre sont commis.
Réagissant à cette déclaration de Human Rights Watch, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement central, Lambert Mende, reconnaît qu'il y a des cas de bavure, mais les institutions judiciaires militaires congolaises s'en occupent déjà. Il dénonce par la même occasion les attitudes de cette ONG à se faire passer, je cite, en juge dans les affaires congolaises. Maître Jean Bouillou, comment vous réagissez à tout cela?
Oui, d'abord, il faut dire que sur le terrain, il y a un ensemble d'opérations que nous ne pouvons pas, disons, préjuger. C'est-à-dire, nous les recevons tels qu'ils nous sont rapportés et nous estimons que ce n'est pas acceptable que des militaires d'un camp comme d'un autre puissent se rabattre sur la population. Ça, ce sont des faits qu'il faut nécessairement condamner. Et nous ne pouvons pas non plus apprécier correctement, en dehors des rapports qui nous sont communiqués par ces organisations non gouvernementales qui sont sur le terrain, nous ne pouvons pas apprécier la pertinence réelle de leurs déclarations. Mais dans ce débat, on les prend comme tels. Et on considère que il n'est pas acceptable que la population soit victimisée par les uns et par les autres. Et en ce qui concerne notre armée, effectivement, il a été jugé important, tant dans les débats à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, que la discipline militaire soit restaurée, tant dans la vie quotidienne que dans les fronts, parce qu'il y a toujours eu des rapports incessants sur le comportement des militaires à l'égard, disons, des contre les civils. Et donc, je dirais qu'on ne peut pas, sur le terrain, accepter ce comportement contre qui fait souffrir hommes, femmes, enfants, et alors qu'ils sont censés être protégés par les mêmes armées. Mais je voulais également dire à cet égard que la réponse du ministre de l'Information, c'est aussi une réponse gouvernementale. D'un côté, on n'a pas de solution ultime que de sanctionner ceux qui commettent ces abus. D'un autre côté, c'est le défi des institutions, il faudrait que nous ayons une armée qui soit respectueuse de sa population. Je crois qu'à ce niveau, c'est ce que je peux dire.
Voilà, et Jacques Joly, sénateur.
Je dois d'abord remercier Maître Bouillou pour l'analyse pertinente qu'il fait de la situation. Je dois dire que nous ne pouvons pas non plus ne pas reconnaître le professionnalisme de Human Rights Watch et je comprends aussi l'attitude du ministre, mais je crois qu'il ne faut pas réduire ces actes, ces crimes de guerre à des simples bavures. Je crois qu'il y a une situation structurelle fondamentale, celle de l'impératif de la réforme du secteur de sécurité en général et de notre armée. C'est une situation qui date depuis 1960. C'est une armée héritière, n'est-ce pas, de la force publique, qui considère les civils comme son premier ennemi. C'est inadmissible. Il faut cette réforme pour que l'armée soit au cœur de la refondation de l'État congolais. Et la face la plus insupportable d'un État, c'est l'absence d'une armée. Et nous ne sentons pas au niveau du gouvernement cette volonté de mettre cette question de l'armée au cœur de la refondation. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre qu'une armée nationale puisse violer, tuer ses propres compatriotes. C'est le preuve, n'est-ce pas, d'une absence de professionnalisme. Ce n'est pas normal que pour résoudre tous les problèmes que nous avons à l'Est, les FDLR, les LRA, qu'on recourt toujours aux armées étrangères, c'est la preuve que nous n'en avons pas. Et puisqu'il n'y en a pas, mettons-nous ensemble pour dire comment recruter, comment former.
Mettons-nous ensemble, c'est qui avec qui?
Le peuple congolais, c'est une réforme nationale majeure. Il faut une armée nationale. Un État qui n'a pas d'armée n'est pas un État. Ce n'est pas un État. Donc, il faut une armée et ce n'est pas un conglomérat où on prend chaque fois. On ne connaît même pas le nombre. Aujourd'hui, on vient de mettre encore le 11 000 CNDP sans vetting, sans qu'on puisse, n'est-ce pas, écarter ceux qui ont été impliqués dans le massacre, par exemple, de Kiwanja, où les gens ont tué la population congolaise. C'est inadmissible.
Mais c'est au nom de la paix, quand même.
Non, la paix n'exclut pas la justice. La paix exclut la violence. On ne peut pas prendre de criminels, des gens qui ont commis des crimes de guerre, pour le mettre à la tête d'une armée. C'est inadmissible. Et l'attitude du gouvernement dans les cas de Tangada doit être éclairée pour que, finalement, nous nous engageons sur la voie de nouvelles réformes.
Et puisque vous avez cité Bosco Ntaganda, malgré le souhait de Human Rights Watch de le voir arrêté suite au mandat d'arrêt international déjà lancé contre lui, la délégation du Conseil de sécurité, qui était ici à Kinshasa, a rejoint le président Joseph Kabila en disant que ce serait mettre en péril la situation actuelle de MIPE, observée sur terrain, hein, Maître Richard Bondo. Est-ce que ce n'est pas approprié?
Merci Jean-Claude de me poser cette question et d'abord de m'avoir invité pour participer à ce débat avec les deux honorables, mes précieux compatriotes, les deux honorables, parce qu'il s'agit d'une question d'armée. Souffrez, Jean-Claude, que à travers votre micro, je présente les condoléances les plus attristées à la famille d'un vaillant combattant.
Vous voulez parler du général Mbusamabe?
Général Mbusamabe, dont nous avons appris la triste nouvelle de sa mort ce matin. Ceci étant, la délégation des Nations Unies ici à Kinshasa,
du Conseil
de sécurité, bien sûr, des Nations Unies, n'a pas rejoint le président de la République, a donné une réponse diplomatique dans le sens de dire on ne peut pas rechercher la paix, mais entretenir le fossoyeur de la paix, en l'occurrence Ntaganda. Ce monsieur, pour qu'il y ait la paix, il faut la justice. Vous savez, il y a des situations que le peuple congolais apprécie et se dit si réellement les dirigeants de ce pays, issus des élections réputées démocratiques, si ces dirigeants pensent peuple, pensent Congo, parce qu'on ne peut pas, pour des raisons soi-disant de la paix, en dépit d'un accord que j'ai sous les yeux avec le bureau du procureur près la Cour pénale internationale, dont au chapitre 1er de cet accord, signé en 2004, nous sommes le 6 octobre,
allez-y très rapidement,
avec la République démocratique du Congo. Au chapitre 1er, il y a deux principes généraux, les deux premiers, qui imposent à la République de coopérer pleinement avec le bureau du procureur et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conduite efficace et rapide des enquêtes et des poursuites menées par le bureau du procureur. Mais, on dit que pour la paix, Bosco Ntaganda ne peut pas être
poursuivi
ou remis entre les mains de la Cour pénale internationale.
Donc, vous n'êtes pas d'accord?
Non, je ne suis pas d'accord. Je crois que la justice contribue à la paix sociale. Donc, il faut que le gouvernement s'assume pour remettre Bosco Ntaganda et tous ces criminels qui violent les femmes. Vous venez de nous donner une information ici, disons, c'est...
Concluez.
140 femmes violées.
Hmm.
Et le gouvernement dit que cette ONG, Human Rights Watch, n'est pas le juge. Mais c'est... Vous savez, il y a la voix des 100 voix. C'est-à-dire, cette ONG parle au nom du peuple
merci.
Congolais, muselé, réduit au silence.
Merci, maître Richard Bondo. Il y a un auditeur anonyme du Nord Kivu qui se dit être totalement d'accord avec Human Rights Watch, car les auteurs de crimes sembleraient récompensés par des grâces au sein de l'armée et regrettent le fait que Human Rights Watch soit seul dans ce plaidoyer et que la communauté internationale reste, dit-il, sourde face à cette situation. Maître Jean Bouillou, est-ce que vous pensez que c'est le cas?
Ben non, je pense que, d'abord je remercie le professeur Njoli ainsi que Maître Bondo. Maître Bondo qui a toujours eu le courage d'aller au devant des événements durant la conférence pour la paix au Congo, le dialogue intercongolais comme on l'appelait, eh bien il a eu l'initiative heureuse d'être le facilitateur dans ce dialogue. Je voudrais justement m'attarder sur la question de la justice, de la paix et de la sécurité. Et qui doit passer avant l'autre?
C'est quoi?
Et lorsque le chef de l'État dit que il n'est pas, disons, indiqué de sacrifier la paix à l'Est au nom de la justice, il y a eu plusieurs réactions, plusieurs réponses. Les uns estimant que la justice passe avant la paix, d'autres estimant que la paix passe avant la justice. Mais quand vous voyez la logique de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de sécurité, vous découvrez que finalement, tout le monde s'accorde dans le forum international qu'il faut d'abord la paix, qu'il faut la sécurité pour qu'on puisse mettre en place une justice fiable. Et justice, évidemment, entendue au sens humain. Parce que si vous lisez les documents du Concile Vatican II, les écrits de Pape Paul VI, là vous trouvez une conception religieuse de la justice qui dit que la justice, c'est le vrai nom de la paix. Mais lorsque vous vous rendez compte dans les fonctionnements politiques diplomatique, nationale et internationale, vous allez vous rendre compte que pour que les mécanismes de justice puissent être opérationnels, il faut d'abord que des conditions de sécurité, de paix soient établies. C'est pour ça que le Conseil de sécurité s'occupe toujours d'abord de rétablir la paix dans n'importe quel conflit, pour qu'une fois la paix rétablie, qu'il puisse alors mettre en place, avec l'aide de la coopération de notre pays, des mécanismes pour la réalisation de la justice. Et dans le cas d'espèce, prenons le cas de la propagande, justement, nous sommes dans un processus de pacification de l'Est du pays. Et ce processus de pacification rejoint les expériences antérieures à notre propre, qui ont eu lieu dans notre propre pays, en vue de parvenir à la sécurisation de la population. Et dans ce processus, on a toujours eu comme réaction, tant de notre côté que du côté des facilitateurs, du côté des intervenants, le privilège de mettre la paix au devant de la justice. Et c'est pour cette raison aussi que j'apprécie l'attitude du gouvernement congolais de dire « Faisons d'abord la paix avec les groupes armés à l'Est, perdons ce que nous allons perdre parce qu'on ne peut pas y perdre ses plumes, on ne peut pas conserver toutes ses plumes. Et une fois la paix et la sécurité rétablies, nous pourrions alors penser à la justice. » Il s'interpose alors la question du conseil, disons, de la Cour pénale internationale, justement, qui réclame Taganda, Moscou. Et les Nations Unies n'ont pas ignoré qu'il faut poursuivre les criminels, puisque c'est la raison d'être de la Cour pénale internationale. Mais quand vous lisez les statuts de la Cour pénale internationale dans ses propres statuts, à l'article 16, vous découvrez que même là, on a relativisé, parce que la provision de l'article 16 dit clairement que le Conseil de sécurité, agissant dans les prescrits de l'article du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, peut décider de la surséance d'une poursuite lorsque la paix et la sécurité internationale sont en danger. C'est vous dire que la question de la justice s'apprécie toujours par rapport, disons, au panier de la paix et de la sécurité.
Donc, au nom de la paix, Bosco Taganda et d'autres aussi ne doivent pas être poursuivis, maître Zambouille.
D'abord, depuis la transition, tous les criminels du MLC, du RCD, tout ça, n'ont jamais été poursuivis, suivant la même logique. Et ils sont là, ils sont même devenus des objecteurs du gouvernement aujourd'hui. Donc, je ne dirais pas qu'ils ne méritent pas d'être poursuivis, mais je dirais que lorsque la paix et la sécurité, dans toute une région comme la province orientale, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, le Nord du Katanga sont menacés et qu'il faut mettre fin à cette insécurité, eh bien, on peut sacrifier la justice pour qu'il y ait un regroupement pacifique à un moment donné de notre histoire.
Exactement. Donc, je crois que le débat n'est pas philosophique. Le débat est d'abord opérationnel. C'est dans l'attitude du gouvernement. C'est que nous déplorons. C'est que le gouvernement, comme a dit Maître Baudot, puisse d'abord traiter des crimes aussi odieux des simples bavures, alors que c'est un comportement qui est permanent. Deuxièmement, nous déplorons l'attitude à géométrie variable du gouvernement. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnes, on a vu les Mouidjolo et les autres, et même dans le cas de Bemba de manière indirecte, le gouvernement, c'est vraiment le plus grand collaborateur de la justice internationale, au nom des accords signés. Mais lorsque le gouvernement arrive dans des cas spécifiques, par exemple les criminels du CNDP, le gouvernement devient tout simplement un anneau et pose des problèmes de souveraineté. C'est la même chose en cas d'amnistie. Alors qu'il y a des citoyens qui ont commis des crimes qui ne sont même pas démontrés, parce qu'on parle de putsch imaginaire, eh bien le gouvernement est sans pitié. Ils sont à Makala depuis des mois, des années, et ils attendent des jugements ou même d'autres décisions qui ne viennent pas. Mais lorsqu'il s'agit des cas de CNDP, ben le gouvernement est prêt à effacer, à faire signer l'amnistie dans les conditions les plus inimaginables et à transformer le CNDP à un allié, n'est-ce pas, au sein de la majorité et à le recevoir dans le grand hôtel. Et c'est cela un peu qui choque. Donc, on peut comprendre qu'on puisse faire passer un certain nombre de crimes, mais les crimes de guerre,
du crime international et pour le cas de Tangada, il est poursuivi pour ses crimes, que le gouvernement le couvre. Moi, je trouve que c'est une honte pour notre pays qui dit qu'il collabore à la justice internationale.
Voilà, on va essayer de clôturer ce premier sujet par ces réactions des auditeurs. Pascal Beya de Lubumbashi pense que la demande de cette ONG est fondée, mais il se dit préoccupé par le fait que de telles demandes restent toujours sans suite pratique et favorable. Selon lui, ni le Conseil de sécurité ni le gouvernement n'y feront cas et les populations continueront à subir les arts de la guerre dans l'impunité totale. Benabé de Kinshasa pense que Human Rights Watch et le gouvernement sont entrés dans un bras de fer dont les droits humains risquent de sortir perdants. Maître Juvenal Mounoubo Moubi de Goma est d'une part d'accord avec Human Rights Watch, mais il pense que cette ONG ferait mieux de plaider en faveur de l'augmentation des capacités opérationnelles de la MONUC et des FARDC. Augustin Mwango de Kindu pense que Human Rights Watch a raison car le gouvernement congolais semble vouloir quelque chose et son contraire. Comment vous réagissez à tout cela en quelques 40 secondes, hein, Maître Richard Bondo?
Je crois que le peuple a parlé. Le gouvernement, il a été élu. C'est un gouvernement issu des élections. Le peuple voudrait que ce gouvernement fasse sanctionner ou facilite que la justice soit rendue par rapport à tous ces criminels de guerre qui ont tué, massacré des pans entiers de nos populations.
Voilà, Maître Jean Bouillon.
Oui, merci. Je vais dire simplement que le gouvernement congolais a toujours coopéré avec la Cour pénale internationale. Est-ce que dit le professeur Joly, justement, le fait que la première fois le gouvernement dise ce cas-ci, il sera réglé autrement, n'équivaut en rien à toutes les coopérations que le gouvernement a déjà données à cette Cour pénale internationale, dont les premiers poursuivis devant lui ne sont que des Congolais. Donc, je crois qu'il ne faut pas prendre ce cas isolé comme étant le principe. Le principe, c'est que le gouvernement a dans plusieurs cas à coopérer, et lorsque la paix l'impose, il peut dire, je vais manipuler ce cas, manier ce cas autrement.
On va terminer par vous.
Je crois que nous sommes peut-être éloignés du débat sans nous éloigner, mais le cas de Tangada démontre tout simplement que le problème principal que nous avons soulevé, pour lequel nous battons, le problème de massacre de la population par les troupes congolaises. Ce problème est consécutif au recrutement, au conglomérat, au ramassage de personnes telles que les gens du CNDP qui sont entrés tous sans triage, sans qu'on puisse déterminer qui ont commis les crimes.
Ça peut se faire après.
C'est ce qui se fait justement avec tous les groupes armés. C'est-à-dire que l'opération de recrutement ne peut pas ignorer les victimes. Parce que lorsque vous ne captez pas le mauvais élément qui ont, n'est-ce pas ce qu'on appelle le record, mais qui connaît mieux que moi, en matière de violation grave du droit de l'homme, et bien vous avez une armée qui se singularise justement par ces viols massifs. Parce que, vous rappelez-vous, quand on avait un mauvais enfant qui se comportait, qui n'étudiait pas, on l'envoyait dans l'armée. Et je me rappelle d'un général Mayel qui disait « Armée Zaïe Koundété ».
C'est pas une poubelle.
Oui, quand vous transformez votre armée en poubelle, eh bien, vous avez les conséquences qu'on a. Quand vous prenez tous les criminels, mais ils violent, ils pillent. Voilà pourquoi il est important que l'armée soit une école d'excellence. Voilà pourquoi les militaires doivent savoir pour qui et pourquoi ils se battent. S'il n'est pas formé, si après avoir été chasseur, violeur, il entre dans l'armée avec un grade de colonel, de général, sans avoir suivi un processus, eh bien nous avons une armée qui est juste une armée des soudards et des braillards.
Voilà, on a terminé, à moins que Maître Chambouille veuille peut-être répliquer en 30 secondes.
Oui, il faut relativiser. Il faut dire qu'il y a aussi parmi eux des bons et des gens qui sont morts au front pour ce pays. Et on ne peut pas non plus tous les mettre dans le même panier.
Comme le général Mbouzamabe.
Voilà, comme le général Mbouzamabe, dont nous regrettons les morts. Et merci à Maître Bondo de l'avoir rappelé.
Tout à fait. Voilà, nous parlons de l'ONG Human Rights Watch qui a suggéré au Conseil de sécurité des Nations Unies de condamner vigoureusement les crimes de guerre commis par les soldats de l'armée congolaise dans la partie est du pays, ainsi que leur exclusion des postes de commandement de l'armée pour atteinte aux droits humains. Et nous en avons parlé avec Jacques Joly, Jean Bouillou et Maître Richard Bondo, des invités que nous gardons pour le deuxième sujet. Il s'agit de la marche pacifique hier mardi à Mbandaka des militants du MLC réclamant l'implication du chef de l'État pour le retour aux affaires du gouverneur déchu José Makila. Pourquoi ces militants du MLC réclament-ils l'implication de Joseph Kabila dans ce dossier? C'est le second thème de cette émission. Nous en parlons tout de suite après son rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Pourquoi les militants du MLC en Mbandaka réclament-ils l'implication de Joseph Kabila pour le retour aux affaires du gouverneur déchu José Makila? Ces militants se comptaient par plusieurs centaines aux côtés d'eux, quelques ministres provinciaux et autres cadres administratifs de cette formation politique. Ils ont donc marché hier à Mbandaka. José Makila, sans toi, la province de l'Équateur est vouée à l'échec. Ce sont les écrits de leur calico. La marche partie du siège du MLC a connu son point de chute au palais de la justice. Un mémorandum a été lu par Nicolas Issofalé. Il est président fédéral du MLC Équateur. Document dans lequel les militants du MLC réclament l'implication du chef de l'État pour la réhabilitation du gouverneur José Makila Soumanda comme gouverneur de la province de l'Équateur. Ceci pour dénoncer tout ce qui lui est arrivé. Et j'ai justement le mémo. Je peux lire juste un paragraphe. En votre qualité de magistrat suprême et garant de la nation, il est clair que ce qui se trame autour de ce dossier fait voir à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qui a, je cite, « interférence politique obstruant l'exécution de l'arrêt numéro 059 de la Cour d'appel de Mbandaka rendu en date du 24 avril 2009, et ce, en violation de l'article 149, alinéa 4 de la Constitution, qui stipule que les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux, sont exécutés au nom du président de la République. » Alors, qu'est-ce que vous en dites, Jacques Joly?
Merci beaucoup. Je crois que
du MLC, je rappelle.
Je suis du MLC et je crois que le dossier de José Makila, c'est un dossier qui nous préoccupe au premier chef. L'appel de nos amis, de nos camarades de Mbandaka témoigne justement les désarrois dans lesquels la population de l'Équateur est plongée depuis 4 mois. Depuis 4 mois, il y a eu, n'est-ce pas, une motion de défiance contre un gouverneur et l'affaire est partie devant les juridictions. La Cour d'appel a rendu son arrêt très tardivement et aujourd'hui la Cour suprême a rendu aussi son arrêt sans qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Vous savez, la construction d'une démocratie exige une justice qui va servir de socle. Mais si la justice nous pose beaucoup de problèmes d'incohérence, eh bien, on arrive à cette situation.
Il faut juste rappeler que dans son arrêt, la Cour suprême de justice a dit que la requête du gouverneur déchu était recevable, mais non fondée.
Mais lorsque la Cour le dit, mais il faut que la Cour, dont les arrêts s'imposent à tout le pouvoir public, puisse se donner la peine de saisir le CI ou l'institution qui doit organiser. Mais si la même Cour, à travers son procureur général, demande encore en cours d'appel de faire au procureur, après la Cour d'appel, de faire appel sur la décision rendue par la Cour d'appel, on ne sait plus finalement à quel sens se vouer. Et la situation politique se détériore, parce que pendant 4 mois, on a laissé un vice-gouverneur, très partisan, excusez-moi de vous le dire, gérer la situation, et hier, votre radio a fait preuve, où il y a eu un président de l'Assemblée provinciale et un ministre qui sont venus en main devant la population. C'est qu'on a créé les conditions d'une confusion politique intentionnelle dans la province de l'Équateur. Lorsque l'arrêt de la Cour d'appel de Mbandaka a été rendu, pourquoi a-t-on empêché Makila de regagner l'Équateur? Parce que c'était aussi là un refus de l'exécution d'un arrêt sur base de l'état de droit. Donc, si je dois me résumer...
Il semble qu'il a encore d'autres dossiers en justice.
Oui. Mais si le dossier est en instruction, mais qu'il y a un arrêt qui est rétabli, qu'on le laisse d'abord rentrer et qu'on applique lorsque l'arrêt deviendrait inattaquable ou lorsqu'il y a une nouvelle affaire, qu'on le dit. Mais là, nous sommes dans l'opacité et une opacité intentionnelle pour laisser la province de l'Équateur dans une situation de confusion et nous sommes dans la confusion.
Maître Richard Bondo.
Jean-Claude, la population de Mbandaka ou bien de l'Équateur a raison d'en référer au président de la République.
Pourquoi?
Parce que les militants du MLC l'ont dit, à la lumière de l'article 149, alinéa 4, les arrêts ou les jugements des cours et tribunaux sont exécutés au nom du chef de l'État, c'est-à-dire sous le président lui-même de la République, qui tient la main à ses arrêts ou à ses décisions judiciaires pour qu'elles soient exécutées. Et ici, le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a crise pour le bon fonctionnement du pouvoir public, de l'administration publique. Le président de la République a des prérogatives qui lui sont reconnues, notamment à l'article 69 de la Constitution, qui le déclare arbitre pour le bon fonctionnement des institutions.
Donc, vous dites que dans le cas de l'Équateur, le président doit agir.
Doit impérativement agir. Et il n'a pas, et il ne peut pas disons, faire de l'atermoiement. Il doit agir ici et maintenant. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit l'honorable Joly, ça fait plus de 4 mois que la population de l'Équateur est aux félines de son gouverneur. Donc le gouvernement est en dysfonctionnement total. Parce que l'Assemblée, tantôt, voudrait se convertir en gouvernement, le gouvernement voudrait se convertir en Assemblée, et il y a une cacophonie dont, qui exige une personnalité forte. Et cette personnalité forte, comme le dit un poète déjà décédé russe,
je m'y attendais,
Nikolai Gogol, il dit: c'est une chose connue, la Sainte Écriture le dit, la voix du peuple et la voix de Dieu. Il est impossible d'imaginer rien de plus sensé que ce que a imaginé le peuple. Et le peuple de Mbandaka s'adresse au président de la République en vertu des pouvoirs constitutionnels qui sont reconnus, notamment à l'article 69 comme arbitre et à l'article 149. Parce que c'est le premier huissier judiciaire de la République, parce que c'est lui qui exécute les décisions judiciaires.
Voilà, j'ai dit ça parce que Maître Charbonneau, apparemment, vous lisez beaucoup. Du côté des notables de la province de l'Équateur, le sénateur ANP Henri Thomas Lokondo s'est prononcé ce mercredi sur le sujet. Pour lui, seule la Cour suprême de justice doit nous éclairer sur l'affaire José Makila. Ce flou, entretenu par la justice, a-t-il ajouté, doit prendre fin. Cependant, il s'est dit confus de la manière dont la province de l'Équateur est gérée. On écoute le sénateur Henri Thomas Lokondo de l'ANP au micro de José Descharnier.
Le gouvernement Makila a été désavoué par l'Assemblée provinciale. Il avait introduit son recours au niveau de du parquet général de Mbandaka, qui lui a donné raison. Après, comme vous suivez, la Cour suprême de justice a pris un autre arrêt contraire, mais qui porte en son sein beaucoup de confusion. Moi, je me dis, en tant que légaliste, il faut qu'on vide la chose sur le plan judiciaire, qu'on clarifie la chose. Est-ce que c'est Makila qui est gouvernant ou qui doit reprendre sa place, ou il faut, après, organiser les élections. On lève cette option, et ça, c'est de la responsabilité, maintenant, de la Cour suprême de justice. Mais tel que la province est gérée, maintenant, là-bas, ça, c'est à l'unanimité, pour nous tous qui sommes ici à Kinshasa, c'est honteux d'avoir des dirigeants de cette manière. C'est honteux.
Maître Jean Bouillou est député national aussi. Je vais vous donner la parole, mais avant tout, d'abord, parce que nous avons posé la question à la Cour suprême de justice, et précisément au premier président de cette Cour. Pour lui, la Cour suprême de justice a consulté très objectivement cette requête. Nous avons conclu que le délai de 48 heures observé par l'Assemblée provinciale de l'Équateur avant la déchéance du gouverneur Makila était bel et bien respecté. Ce sont ses propos, donc, du premier président de la Cour suprême de justice, M. Ntika Manure, interrogé ce mercredi sur la question, et par l'arrêt de la Haute Cour, qui dit que la requête en inconstitutionnalité de José Makila était jugée recevable mais non fondée, poursuit le premier président de la Cour suprême de justice. Cela veut dire que l'acte posé par l'Assemblée provinciale de l'Équateur est conforme à la Constitution. Quant aux conséquences de cet arrêt, le numéro 1 de la Cour suprême de justice souligne que leur institution ne réfléchit pas sur les effets de l'arrêt, je cite, « elle rend seulement l'arrêt, elle se limite à ça ». Alors, Comment vous comprenez, Maître Jean-Bouy, je vous vois sourire, mais essayez d'aider les auditeurs à comprendre, justement.
Oui, non, non, je crois que les choses sont simples, et le président de la République ne peut pas intervenir dans cette affaire. Il s'agit d'une affaire judiciaire. Et le professeur Njoli, qui enseigne le droit, et Maître Bondo, qui est avocat, ils savent bien que l'article 151 de la Constitution interdit au président de la République, en tant que chef de l'exécutif, d'intervenir dans les jugements. Comme il interdit également aux législatifs, donc au Parlement, de le faire. Alors, qu'est-ce que il faut comprendre ce qui s'est passé d'abord. Pourquoi la Cour suprême est venue à se prononcer dans cette affaire.
Oui.
On a reproché au gouverneur Makila d'avoir fait rapatrier l'argent des enseignants d'un district de l'Équateur qui est arrivé dans le district avec un libellé qui était flou. On s'est référé à lui pour savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Il a donné des ordres pour que cet argent, une partie reste là et une partie soit retournée à Kinshasa. Et à Kinshasa, cet argent était réceptionné par sa secrétaire. Au vu de ces faits, l'Assemblée provinciale s'est saisie et a ouvert un débat, débat qui a abouti à ce qu'il soit sanctionné par cette Assemblée provinciale. Ayant été sanctionné par l'Assemblée provinciale, eh bien, il saisit en même temps. C'est ça son problème. Il saisit la Cour d'appel de Mbandaka et il saisit en même temps la Cour suprême de justice. En fait, il rend deux juridictions de niveaux différents compétentes sur la même matière. Alors, la Cour d'appel de Mbandaka rend un arrêt qui lui est favorable et qui lui permet de reprendre le travail. Mais la Cour suprême de justice, quelques jours après, rend un arrêt qui ne lui permet pas de reprendre le travail.
Parce que tout simplement, cet arrêt n'est pas compréhensible.
Alors, écoutez, non, l'arrêt dit qu'il lui est que la décision de l'Assemblée provinciale est une décision valable. Autrement dit.
C'est-à-dire la déchéance.
Oui, c'est-à-dire que la Cour d'appel de Mbandaka, sa décision ne peut plus prévaloir.
Le problème, Maître Jean-Louis, excusez-moi, c'est que la Cour suprême, jusque-là, ne se prononce pas sur l'arrêt de la Cour d'appel de Mbandaka.
Oui, mais se prononce sur la validité de la décision de l'Assemblée provinciale. En fait, la Cour suprême, en quelque sorte, a même vidé le débat, puisqu'il est allé sur le fond de la requête. Donc, c'est pour cette raison que le chef de l'État ne peut pas intervenir dans cette matière, sinon alors, il viole la Constitution.
Oui, mais, Maître Jean-Bouy, excusez-moi.
Oui.
Pourquoi il n'y a pas élection d'un nouveau gouverneur alors?
Oui, mais ça, ce sont des dispositions pratiques qui n'intéressent pas la Cour suprême, il est vrai. Ce sont des dispositions qui intéressent l'organisation de l'État qui organise les élections, dans quel timing, dans quel délai. Mais il est vrai qu'il y a un vice-gouverneur. Pendant ce temps, le vice-gouverneur va assumer l'intérêt, mais travailler.
Voilà, et à Maître Richard Bondo et Jacques Denis, peut-être un mot, parce que vous avez parlé moins, Maître Richard, très rapidement. Hein,
oui, très rapidement. Je crois que la Cour suprême n'a pas le devoir de semer la confusion. Son arrêt est postérieur à l'arrêt de la Cour d'appel de Mbandaka. Et l'arrêt le plus favorable, c'est celui-là qui doit être exécuté. L'arrêt qui vient semer la confusion, soit-il de la Cour suprême, ne peut pas être utile au peuple. Pourquoi? Parce que la justice est rendue, en vertu de l'article 149 de la Constitution, le premier alinéa dit, et la justice est, je crois, le deuxième, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Or, ce peuple-là, après l'arrêt de Mbandaka, dit, Makila mérite d'être notre gouverneur. C'est ce peuple-là. Il ne faut pas dire la Cour. Et puis le premier président vous a dit, lui ne voit pas les effets. Mais le président de la République, quel est son rôle? Il est le garant des institutions. C'est ce que nous nous disons, à la lumière de l'article 69, il est arbitre, et à la lumière de l'article 149, c'est lui qui exécute la décision. Et la décision la plus favorable, celle qui vient apaiser les esprits à l'Équateur, c'est celle de la Cour d'appel de Mbandaka.
Oui, Jacques Lioni, sénateur.
Non, je crois que il y a une double lecture qu'il faut faire. La lecture judiciaire est claire. Et je crois que le pouvoir exécutif ne peut entraver le cours de la justice ni s'opposer à l'exécution d'une décision judiciaire. Deuxièmement, toujours une clause de la lecture juridique, les arrêts de la Cour suprême, ici en matière constitutionnelle, s'imposent, sont obligatoires, et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Donc là, du côté de la lecture judiciaire, les choses sont claires. Il faut maintenant que la Cour suprême, si elle reste dans sa logique, puisse transmettre, n'est-ce pas, l'arrêt à la CI qui doit organiser les élections dans le 15 jours. Ça, c'est la lecture juridique. Mais sur le plan politique, ce que nous déplorons, c'est quoi? C'est lorsque le premier arrêt est rendu, il n'y a pas encore d'arrêt de la Cour suprême. Et à ce moment-là, Makila n'a pas encore un arrêt sur sa tête. Donc, il peut se rendre librement à Mbandaka.
Mais il en a été empêché.
C'est pourquoi, en fait, le recours au président de la République par le peuple de Mbandaka, c'est parce que le peuple de Mbandaka trouve qu'il y a une main politique dans cette affaire. Et comme on l'a empêché pour la première fois d'aller à Mbandaka, c'est qu'il faut recourir à cette main. C'est sans cette interférence nocive.
Quelle main? Alors, c'est...
Mais lorsque Makila descend de l'avion, l'agent de la DGM lui dit, monsieur, vous ne partez pas parce que la hiérarchie. Et voilà, c'est tout de ça. Donc, si les choses, on va laisser les choses aller normalement, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt de la cour d'appel, Makila y va, et que après la cour se prononce, puisque Makila a accepté l'arrêt de la cour d'appel, il est resté même pendant très longtemps ici, il aurait dit qu'il allait respecter l'arrêt de la cour suprême. Ce qui fait que l'arrêt de la cour suprême apparaît maintenant qu'il est pour suspecto avec tout ce qui s'est passé, et c'est ça qui crée l'opacité, et voilà pourquoi l'honorable Lokondo, nous utilisons que la cour, puisque nous sommes dans une lecture judiciaire, qu'on aille jusqu'au bout et qu'on fasse l'état de droit. Mais malheureusement, cette situation a créé un pourrissement de la situation, une confusion au sein de la haute administration de l'Équateur. Et aujourd'hui, il est grand temps que la Cour, parce que dans le jeu de la séparation du pouvoir, la Cour a aussi un rôle politique. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle l'intérêt institutionnel ou l'exécutif, le législatif et le judiciaire et le secteur, pour ne pas créer les conditions, je ne vais pas dire d'une guerre civile, mais d'une confrontation entre les ténors de Makila et les non-ténors de Makila. C'est pour l'intérêt de la paix, c'est pour l'intérêt de la province de l'Équateur. Nous voulons vraiment qu'on sorte de cette affaire et que les choses soient claires pour que l'Équateur, qui est déjà la province la plus pauvre du Congo, puisse au moins se mettre au travail, et si on doit apporter quelque chose à l'Équateur, apportons-lui les 5 sentiers et pas autre chose.
Voilà, il semble que ça a aussi créé la confusion au MLC, parce que faut quand même reconnaître que vous êtes resté silencieux pendant un moment, hein, Jacques Jolis.
Non, ce n'est pas un problème silencieux. Makila, comme a dit l'honorable Mouyou, il y a eu, n'est-ce pas, une motion de défiance.
Vous avez dit quand même de la
non, matière. Il aime d'aller en justice par respect pour l'institution judiciaire.
Merci.
Il n'était pas bon que l'institution prononce ça.
Il y a plus beaucoup de temps. On va prendre très rapidement les réactions. Il n'y a pas assez de temps. Blanchard de Mbandaka, lui, voudrait avoir des précisions au sujet de l'implication personnelle du chef de l'État dans le dossier Makila. Qu'est-ce que cela veut dire et à quoi sert l'indépendance du pouvoir judiciaire? À beaucoup de Mbandaka. Justifie ses demandes de l'implication du chef de l'État suite à sa position de magistrat suprême. Je sais, ça des babilités parce que le gouvernement Makila est empêché de reprendre ses fonctions car la province de l'Équateur semble être oubliée du pouvoir central. Eli, encore de Mbandaka, pense que la province de l'Équateur a besoin des travailleurs et non de l'anarchie politique au ministère de l'Intérieur. Maître Jean Bouillou, en une minute.
Oui, justement, le professeur Joliet a éclairé les débats et montre que le chef de l'État ne peut pas intervenir dans l'affaire. Il s'agit d'une affaire judiciaire. Si l'arrêt de la Cour suprême n'est pas assez clair, c'est à la Cour suprême qu'on se réfère. Et de ce point de vue, je crois que le débat n'est pas au niveau de l'intervention de l'exécutif dans le judiciaire.
Quel niveau?
Le débat reste au niveau judiciaire. Le temps que ça prendra.
Et si on allait jusqu'en 2011.
Écoutez, mais ce que je voulais dire simplement, c'est que l'auditeur de Mbandaka a effectivement raison de s'inquiéter sur le fait de vouloir donner des missions au chef de l'État qui ne lui reviennent pas au regard de la Constitution. Et ça, il faut éviter.
Mmh. Merci. Alors, on va terminer par vous, notre Richard Bondo, en 30 secondes, parce que on est presque à la fin.
En 30 secondes, je voudrais simplement dire que l'arrêt de la Cour suprême est venu semer la confusion. Le rôle du président de la République d'être l'arbitre quand il y a dysfonctionnement des institutions de la République est très, très nécessaire maintenant parce que c'est lui qui doit arbitrer ce conflit. La Cour suprême a échoué.
La Cour suprême a échoué. Un mot, peut-être Jacques Joly, en 5 secondes.
Aidez-nous à rendre l'Équateur une province gouvernable en paix et que cessent toutes les interférences négatives aussi bien du sommet que de la base.
La bonne gouvernance est nécessaire, même dans le cas des provinces, et il est important que le gouverneur qui détourne soit sanctionné, et il est important aussi que la justice soit bien dite.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Jean-Bouy, Jacques Joly et Maître Richard Bondo, nos invités. Paul Banyanama était à la technique, et d'un côté, Guy Maté, Samuel Kachak, Martin Sebou-Jangoué, Jean-Claude Toumba-Kamanga, nous vous disons merci de nous avoir suivis.